huitième du nom tout de même, hein, a pour but de nous faire voyager en Italie au XVe et XVIe siècle, et nous allons essayer de nous dépatouiller avec les artistes actifs en Italie à cette période. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Italie est certainement un des foyers européens les plus dynamiques dans le domaine pictural à cette période, et qu'il n'est peut-être pas toujours si simple de s'y retrouver. Le but de ces séances est donc de faire en sorte que nous puissions, dans 5 semaines, essayer de lire, de comprendre, de voir ce que peut être une peinture vénitienne ou florentine, ou que sais-je encore, de ces périodes, et que nous connaissions aussi un certain nombre entrées. Allez-y, je vous en prie. Je déplace sur le bas. Petite signature. Voilà. Alors, vous avez une place peut-être. Voilà. Bien, que nous puissions donc nous y retrouver dans ce dédale de la peinture italienne au XVe et XVIe siècle, qui sont parmi les périodes les plus actives, hein, de l'Italie picturale. Vous êtes tous, pour la plupart, des anciens de ces ateliers, bonsoir, et vous connaissez toujours nos petites règles, alors elles sont un peu diaphanes ici, mais vous les connaissez suffisamment pour que je n'ai pas à les rappeler trop. Je vous rappelle que dans ces ateliers, il ne faut pas hésiter à prendre la parole, mais sans la monopoliser. Vous savez que nous essaierons de suivre un fil directeur, une méthodologie pour essayer de nous y retrouver dans cette riche matière. Nous sommes là dans des ateliers d'histoire de l'art. Il s'agit d'art, mais il s'agit aussi d'histoire. Donc nous essaierons d'avoir et de mener un travail qui n'est non pas subjectif, hein, et je dirais esthétique, mais un travail marqué par une volonté avant tout scientifique. Nous n'utilisons pas Internet. Et enfin, s'il y a parmi vous des as questions que nous allons traiter, je vous remercie de ne pas tout de suite prendre la parole pour ne pas mouiller le pétard sur lequel nous sommes en train de travailler. Il est clair que si ceux d'entre vous qui seraient des cracks dans ce domaine, si vous répondez tout de suite aux questions que je pose, ben pour les autres, évidemment, ça ne marchera pas. Donc ce dernier point est évidemment très très important. L'idée de ces ateliers n'est pas de faire connaître aux connaisseurs ce qu'ils connaissent déjà, mais au contraire d'essayer, pour ceux qui sont moins assurés dans ces domaines, d'acquérir un certain nombre de connaissances. C'est ça le but. Bien, ceci étant dit, on va pouvoir aborder cette première séance en évoquant d'abord 2 œuvres que j'ai choisies pour vous, et ce sera le contenu de ce premier chapitre. Je vais vous montrer 2 œuvres de peinture que je voudrais que nous regardions, déjà au niveau de leur iconographie. On essaiera également de voir ce que l'on peut dire sur la manière esthétique dont ces œuvres ont été réalisées, et puis de voir peut-être si on en connaît l'auteur et l'endroit où l'auteur a pu les réaliser. Mais on va commencer par un premier regard sur le premier de ces 2 tableaux que je vous propose. Et que voici. Voilà donc le premier tableau que je soumets à votre sagacité. Avant toute chose, ce tableau qui... Alors, je n'ai pas noté, j'ai pas à mes gardes les dimensions. C'est un tableau qui n'est pas énorme, mais qui n'est pas tout petit. C'est du type 60 par 50 à peu près, hein. Ce tableau, que représente-t-il? Est-ce que vous pourriez déjà décrire le sujet et peut-être, après que dans un premier temps nous l'ayons décrit, essayer de voir quel thème est évoqué derrière ce sujet? Alors, qu'est-ce que l'on voit d'abord dans cette peinture?
Trois personnages,
oui. Pardon?
Dans la nature,
effectivement.
Religieux derrière.
Alors, trois personnages, effectivement, mais on peut peut-être les décrire un peu plus qu'en disant simplement 3 personnages.
Qui sont d'origine différente.
3 personnages qui seraient d'origine différente, ok.
En Orient.
Pardon. Alors, masculin, évidemment, ces personnages sont des hommes quand même, hein. Ça, vous ne l'aviez pas dit, effectivement, ce sont 3 hommes, hein. Voilà. Il y a un jeune, effectivement, un mur et un plus âgé. Bien. Donc effectivement, on a là trois personnages, trois hommes, un jeune, un mûr, un âgé. Okay. Vous disiez qu'ils semblent d'origine différente. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Les costumes,
les vêtements,
le turban.
En effet, l'un, celui du milieu, a un turban qui nous évoque quoi?
L'Orient,
il y a une dimension orientale avec ce personnage au centre, oui.
Les trois hommes, ça fait penser aux rois mages.
Ça fait un peu penser aux rois mages, effectivement. Trois personnages, trois rois mages, oui.
Celui de droite qui porte un écrit, un dessin, ou est-ce que c'est de la géométrie, ou est-ce que c'est quelque chose...
Il a effectivement dans sa main un écrit qui, j'ai l'impression du moins, hein, mêle des éléments écrits, des éléments dessinés, oui. Ça fait penser à quoi?
Un dessin bien en masse.
Pardon?
Un scientifique?
Oui, en tout cas quelqu'un qui réfléchit, oui. Ouais. Donc vous avez assez bien décrit les personnages, vous avez dit qu'ils étaient dans ce paysage, vous n'avez pas dit grand-chose sur le paysage.
Il y a une perspective dans le paysage. Une
perspective, il y a une trouée.
Il y a une profondeur.
Une profondeur.
Un paysage, une maison, un château.
Oui, on voit effectivement des bâtiments.
Des maisons
à l'Orient.
Non, des bâtiments qui ne font pas très orientaux, effectivement.
Il y a des rochers.
Ouais. Une grotte peut-être, oui. On a l'impression de rochers, peut-être d'une grotte.
Il y a un contraste entre les couleurs vigoureuses des deux personnages de droite et le plus noir et blanc de celui qui est assis.
Oui. En tout cas, il y a évidemment.
Que regarde-t-il ?
Celui-là ?
Qu'est-ce qu'il fait ?
Qu'est-ce qu'il a ?
C'est un moine ou c'est, enfin, pas un moine, mais est-ce que c'est quelqu'un de clergé ?
Ici ?
Oui.
Pas évident, je trouve.
Il tient une équerre.
Il tient une équerre, effectivement. Il tient un instrument en forme de L, quoi, une sorte d'équerre, effectivement. Oui, celui-là tient effectivement le document que l'on évoquait tout à l'heure. Alors, je crois que vous avez assez bien décrit, pour résumer, trois personnages de trois âges différents, qui semblent être de trois origines différentes, calés sur la droite, assez dans la lumière, dans un paysage qui s'ouvre sur des perspectives vers le milieu, mais qui à gauche est, j'allais presque dire, bouché par cette mâche rocheuse dont vous me parliez. Bien. Est-ce que, maintenant que vous avez décrit, grosso modo, le tableau en question, est-ce qu'on pourrait se risquer à une idée d'interprétation? Vous avez déjà commencé un peu, vous avez parlé des rois mages. Ça peut être une idée d'interprétation. Ça pourrait être les rois mages, les trois rois mages. Donc c'est une idée. Qu'est-ce qui irait contre l'idée que ce sont les rois mages, d'ailleurs? Parce que c'est une idée, pourquoi pas? Oui. Pardon? Alors, c'est vrai qu'il y a un côté bâtisseur, parce qu'on a quelqu'un qui a une équerre, on a quelqu'un qui a une sorte de feuille manuscrite avec des croquis. Ça fait penser à ça, effectivement. Des gens qui préparent une construction, effectivement, des bâtisseurs, architectes, oui.
Mais la grotte?
Alors, pourquoi la grotte, oui? Si on reprend cette idée des rois mages tout à l'heure, peut-être pour la valider ou pour l'éradiquer, au contraire, donc ce qui irait pour, c'est, en effet, ça représente trois personnages, dont un oriental, un deuxième qui pourrait un peu l'être, un troisième qui est plus occidental, donc ça va assez bien avec l'idée des rois mages. Par contre, moi je trouve qu'il manque un peu quelque chose. Si
c'était il y a noir.
Pardon, il n'y a pas. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de noir, souvent, pas toujours. Dans les rois mages, il y a. On en voit de toutes les couleurs, si j'ose dire. Mais c'est vrai que là, il y en a pas eu. C'est vrai que souvent dans l'iconographie médiévale, il y a un personnage de couleur. Là, c'est pas le cas, déjà. Mais il y a peut-être autre chose aussi. Alors voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ils sont un peu seuls, si vous voulez. Pardon. Alors voilà, les rois mages sont d'abord plus richement habillés. Alors, ils ne sont pas en guenilles non plus. Les rois mages, c'est quand même un peu mieux. C'est des rois. Les mages, voilà, ils amènent des cadeaux, puis ils sont vraiment, il y a du monde, il y a des chameaux, il y a des personnes, enfin là, vraiment, ils sont un peu seuls, un peu, j'allais dire, simplement habillés, on n'a pas l'impression, des mages peut-être, mais des rois peut-être pas, quoi, enfin voilà, et un peu isolés. Donc effectivement, l'idée des rois mages, qui n'est pas du tout une idée hors de propos, parce que on a pu évoquer par rapport à ce tableau cette interprétation et dire peut-être ça génère-t-il des rois mages. Donc c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure parce que C'est une des interprétations qui a été envisagée. Hein. Elle est un peu laissée de côté parce que, décidément, pour toutes les raisons que je viens de dire, hein, je pars.
C'est des mathématiciens,
c'est qu'il semble que les deux personnages de droite, ils discutent entre eux.
Alors, effectivement, on a un peu l'impression d'un personnage qui, là, tourne le dos aux autres. Ça dit, quand on voit ces deux-là, bon, ils sont un peu tournés l'un vers l'autre, mais lui ferme plus ou moins les yeux, regarde vers le bas, lui regarde par là. Effectivement, on a l'impression de personnages qui sont ensemble physiquement, mais peut-être pas plus, quoi.
Est-ce que c'est une scène biblique ?
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je
ne pense pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait penser une scène biblique, mais on ne voit pas très bien quelle serait la scène biblique que vous présentez. Vous avez parlé également de bâtisseurs, vous parliez de mathématiciens. Hein. Alors, il est vrai qu'on a des éléments, l'équerre, ceci. Lui a l'air de porter également quelque chose. Je ne sais pas très bien ce que c'est, d'ailleurs. Bon, enfin, on sent que c'est peut-être une bourse. Hein. Vous savez, très souvent, au Moyen-Âge, voilà, en Renaissance, on a une bourse accrochée à la ceinture. Hein. Voilà. Donc, c'est possible. Donc, c'est vrai qu'on tourne autour, en tout cas, de l'idée de Jean. D'ailleurs, l'idée des rois mages, même si c'est son père roi mage, va un peu dans son sens, enfin, de gens qui, en tout cas, sont des intellectuels, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ils écrivent, ils calculent, ils regardent, ils mesurent. C'est pas des bergers dans la campagne. D'ailleurs, ça, personne d'entre vous ne l'a dit, d'ailleurs. Hein. Donc, on sent bien, tout de suite, qu'on est devant des, entre guillemets, intellectuels. Hein. Parce qu'on est dans la campagne, et après tout, ça pourrait être des bergers, encore une fois. Ça monte pas les scènes avec des bergers, des bergères. Enfin, alors, hein, ça pourrait être ça. Or, a priori, c'est pas ça. Il n'y a pas beaucoup de moutons, hein, ou d'autres animaux. Hein. Mais vraiment, c'est pas l'impression que l'on a. Les attributs, la manière qu'ils ont de se présenter aussi, fait plus penser à des intellectuels, bâtisseurs, mathématiciens, mages, encore une fois, peut-être. Si on allait un petit peu plus loin, si on partait sur cette idée d'intellectuels qui ont des objets qui servent à réfléchir, à penser, ça pourrait être quel genre de personnages ?
Des architectes.
Architectes, c'est une possibilité. Des astronomes, pourquoi pas ?
Des
savants, oui.
Les rochers, en gros.
Rocher,
on
oui.
On ne pouvait pas avoir la manière d'organiser le chaos par les mathématiques.
Ah oui, quelque chose qui serait une sorte enfin, on essaie de comprendre ça par la logique, d'une certaine manière. Hein. Ouais. Et est-ce qu'il y a un mot, peut-être, enfin, un type de savant qui recouvre un peu tout ce que vous avez dit, hein, qui pourrait correspondre
à
des philosophes. Voilà. Voilà. Ça pourrait être effectivement des philosophes, c'est-à-dire des gens. Vous savez, le mot philosophe, hein, il faudrait au moins une année de philosophie pour définir ce que c'est qu'un philosophe. Hein. Donc le mot philosophe est un mot suffisamment large, un mot un peu valide, si vous voulez, dans lequel on peut mettre beaucoup de gens. Un philosophe, c'est quelqu'un qui pense, qui théorise, etc. Bien. On pourrait y voir effectivement des philosophes, d'ailleurs, justement. Chose-là, ici, par rapport
à...
Voilà,
Platon,
absolument. Hein. Vous connaissez le mythe de la caverne chez Platon. Hein. Hein, voilà, exactement, hein, cette idée hein, du très mythique, hein. En gros, hein, je résume, hein, d'un personnage qui est enfermé dans une grotte, qui ne voit absolument pas l'extérieur, mais qui voit face à lui l'éclairage qui vient de l'entrée de la grotte et qui est projeté sur le mur de la grotte qui est en face de lui. Et c'est lui qui ne voit pas l'extérieur, parce qu'il ne voit que la projection de l'extérieur, ne connaît l'extérieur que par les ombres qui passent devant la grotte et qui se projettent sur la projection qu'il y a devant lui. Vous me suivez, hein ? Donc, évidemment, c'est pour Platon toute une divagation sur qu'est-ce que c'est que le réel ? Le réel, c'est peut-être finalement l'ombre qui est projetée. Enfin, voilà, je résume d'une manière très courte, etc., ce mythe de la caverne. Bon, en fait, qui est un grand mythe fondateur de la philosophie occidentale. On peut se demander, n'est-ce pas, si c'est ce rocher... Vous avez insisté dessus, il est extraordinairement présent. Hein. On peut se demander si ce rocher n'est pas ça, n'est pas lui qui est bien creusé, bien sombre, hein, n'est pas une évocation de la caverne de Platon. Hein. D'où le fait qu'on a pu, en effet, suggérer que ce tableau figurait trois philosophes, et trois philosophes effectivement un peu différents hein, des uns des autres.
Hein.
Pardon ?
Par l'âge.
Par l'âge, on l'a vu. Et par l'origine, effectivement.
Oui, voilà.
Hein. On aurait en gros un philosophe occidental, un philosophe oriental et un autre philosophe encore. Enfin, une manière d'incarner les philosophies. Hein. Pas uniquement la philosophie européenne, grande ligne, hein, mais également la philosophie orientale, proche orientale par exemple. Hein. Voilà, donc l'idée est décidément peut-être hein, ici d'avoir un regard sur une sorte de résumé de ce que c'est que la philosophie. Vous auriez d'autres choses à dire sur ce tableau ? Ou ça vous paraît bien ? Ou on passe au suivant ?
Bonjour.
Suivant ? Ouais ?
Il y a un titre ?
Après, ah bah ça on va voir. Après...
C'est la solution.
Après, on essaiera de voir un petit peu plus clair. Bon, d'accord. Allez, hop.
Bon, d'accord, on passe.
Deuxième.
Oh, le ciel.
Alors, qu'est-ce que l'on voit ? Un, qu'est-ce que l'on voit ? Tableau qui n'est pas très très grand non plus, à cet âge, c'est un assez petit tableau, enfin bon, il est dense, on va dire. Un tableau qui... Alors, on va voir d'abord ce qu'il représente, et ensuite ce que cette représentation peut dire. D'abord, qu'est-ce que vous voyez ? Trois personnages.
Une mère qui allaite.
Voilà, on voit à droite une mère avec un bébé qu'elle allaite, effectivement.
Un berger à gauche,
on dirait un berger. Oui.
Un berger à gauche.
Ou un soldat.
Ou un soldat. Berger, soldat.
Il a une lance.
C'est une lance.
C'est plutôt une lance.
Un soldat.
Plutôt une lance. Et puis il a un vêtement. Voilà, plutôt un peu bien quoi. C'est pas trop un vêtement de berger. Vous voyez notamment il a ses chausses que l'on aime bien porter. Notamment en Italie, hein, je vous rappelle qu'on parle de l'Italie, hein, à la fin du Moyen-Âge, et qui sont de deux couleurs différentes. Un peu comme si j'avais un pantalon rouge et blanc, ben, au Moyen-Âge, c'est tout à fait possible. Enfin, juste après, enfin, on verra d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Donc, plutôt effectivement un soldat avec une lance et une femme allaitant un enfant. Qu'est-ce que vous diriez d'autre ?
Il y a une rivière.
Alors, il y a effectivement l'orage
qui se prépare,
hein, qui se prépare, qui fait même un peu plus que se préparer, peut-être.
Ouais, bien oui, hein. Qui est prêt à éclater.
Ouais.
Une ville.
Et on voit une ville, effectivement.
Un pont.
Quelle ville ?
Un pont, une rivière. Quelle ville ? Point d'interrogation, effectivement.
Italienne, peut-être.
Italienne.
C'est un orage ou c'est une cascade ?
Non, c'est vraiment un orage, oui. C'est le ciel. Hein. C'est le ciel. On croit voir un soleil ou une lune, un astre.
Bon.
Il y a des clairs-obscurs. Hein.
Il y a des... C'est très clair-obscur. Très clair-obscur. Hein. Donc,
c'est
un peu saisissant. Hein. Ce n'est pas la douce harmonie que l'aurait du tableau précédent, même si c'est assez coloré aussi, d'ailleurs. Pardon ?
Elle se repose un peu.
Elle se repose, oui. Il y a une chose qui me frappe chez elle, d'ailleurs.
Elle
c'est qu'elle est nue, quand même. Hein. Elle est presque nue. Enfin, elle a une bricole sur les épaules, mais enfin, le reste... voilà, elle est quand même assez nue. Hein.
C'est des herbes partout, là ?
Ben oui, il y a un peu d'herbe. Oui, il y a de la végétation. Là, il y a une petite cascade, si vous voulez.
Non, mais sur elle.
Oui, par devant.
C'est quoi ? Ça ?
C'est une plante par devant.
C'est quoi ? Une fontaine ou bien colonne, c'est plutôt ça ferait penser à une fontaine. On y verrait plutôt des colonnes, deux d'ailleurs, une, deux. Vous savez, en Italie, il y a toujours des colonnes partout. Hein. Il y a appartenu à quelques monuments antiques. La colonne en Italie, hein, ça fait partie du fonds de commerce, si j'ose dire. Hein.
C'est une ville qui a un fleuve.
C'est une ville avec un fleuve.
C'est pas Florence.
Ben non. À vrai dire, oui, est-ce que vous reconnaissez une ville spéciale, là ?
Non.
Je crois pas, hein. Je crois que c'est une ville.
C'est une ville.
Une ville avec des restes antiques, mais enfin des villes avec je ne sais quel monument religieux, des tours et des restes antiques. Ça, c'est l'Italie, hein, du sud au nord, du nord au sud. Hein. Alors, maintenant qu'on a à peu près décrit ce tableau, un soldat, une femme à peu près nue qui allait être un enfant... dans un paysage orageux, dans une ville que l'on ne définit pas trop parce qu'elle semble un peu indéfinissable, où il y a aussi bien un fleuve que des restes de quelques bâtiments antiques ruinés. Une fois qu'on a fait cette description, vous avez bien vu, qu'est-ce que l'on peut dire ? Est-ce qu'on pourrait essayer de se risquer là aussi à une interprétation de ce tableau ? Oui ?
Sur
Le pont.
Ça pourrait être une femme qui échappe à la guerre.
Oui. Effectivement. Pardon ? Du soldat. Donc on aurait là un tableau qui évoquerait une femme qui échappe à la guerre, oui. Hein, et le soldat étant là pour symboliser la guerre ou pour... Voilà, donc elle est nue parce qu'elle n'a pas le temps de s'habiller. Alors, elle a quand même eu le temps, à mon avis, parce que vous voyez qu'il y a ses habits derrière. Hein. Elle s'est visiblement déshabillée. Peut-être le soldat qui l'a déshabillée un peu rudement, d'ailleurs. Hein. On ne sait pas. Hein. Pendant la guerre, il se passe plein de choses. Hein. Hélas.
Est-ce qu'elle s'est baignée dans la fontaine ?
Ou elle s'est baignée dans la rivière, auprès de la fontaine, ou dans la rivière. Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a là une sorte de rue, peut-être. Hein. Vous voyez de l'eau, là. Hein. L'eau continue, elle va jusque-là. Hein. Donc peut-être s'est-elle baignée avec son enfant. Voilà. Moi, je ne vais pas dire baignée non plus, parce que je trouve qu'il ne fait pas froid chez vous. Hein.
Les colonnes et les ruines et un enfant, on pourrait se dire que le temps ne passe point.
Oui. Donc une idée qui, au-delà peut-être alors d'une, comment dire, de la présentation d'un épisode réel, quoi, plus un épisode allégorique qui évoquerait le temps. La ruine, hein, la ruine antique, quelques colonnes qui restent d'un monument aujourd'hui dépecé, et puis au contraire un jeune enfant à naître, enfin qui est né même, voilà, mais devant qui la vie s'ouvre. Donc quelque chose qui serait alors plus allégorique. Hein. C'est intéressant ce que vous disiez les uns les autres, parce que d'un côté, vous parlez peut-être de la présentation d'un thème factuel, un épisode, c'est la guerre, hein, voilà, et la guerre, c'est pas toujours facile. Ou bien alors, c'est un épisode où une femme sort du bain avec son enfant, donc voilà deux épisodes factuels. Hein. Dans un cas, un épisode un peu dramatique, d'ailleurs le drame de la guerre se retrouverait dans le ciel, hein. Et puis dans l'autre, un épisode plus pittoresque, assez piquant, parce que c'est quand même l'orage, hein, mais enfin un orage, quelquefois c'est en été alors qu'on vient de se baigner, pourquoi pas. Hein. Donc il y a soit l'idée de la représentation iconographique, hein, d'un élément factuel, ou alors plutôt un élément allégorique, c'est-à-dire une représentation du temps, hein, avec en effet l'antiquité qui évoque le passé, l'enfant qui évoque l'avenir. Hein. Voilà. Bon. Est-ce que vous auriez d'autres regards, d'autres visions, d'autres...
Moi, ce qui me frappe, c'est l'attitude de madame qui a l'air apeurée, pas tranquille du tout, alors que monsieur, au contraire, est très sûr de lui.
Alors, c'est un petit peu dur de voir de loin, effectivement.
Elle a l'air sereine.
Oui, elle n'a pas l'air trop apeurée, mais de loin, on ne le voit pas forcément très bien. Hein. Bon, elle a l'air, je dirais peut-être pas sereine, mais en tout cas, j'ajouterais relativement. Elle a l'air relativement sereine. En même temps, elle regarde le spectateur, hein, et si elle, peut-être un peu comme si elle l'interrogeait. Hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit très apeurée, si vous voulez. Je pense pas. Hein.
Et le personnage de gauche la regarde.
Par contre, le personnage de gauche la regarde.
C'est étonnant, cette femme nue dans ce décor.
Alors oui, c'est un peu curieux. Mais décidément, vous parliez tout à l'heure de la scène d'un bain. Hein, et ça, c'est en effet bien possible. Après tout, quand on est nu, on s'est baigné avant. Hein, et pourquoi pas avec son gosse.
Est-ce qu'on représente la fontaine ?
Je ne sais pas si c'est une fontaine. Hein. C'est une ruine avec deux colonnes. Hein. Bon, mais en tout cas, il y a de l'eau. Elle a pu se baigner là. Et puis là, elle se sèche. Quoi.
Thermale.
Oui. On n'est pas Vichy. Hein. Ni à Bourbon-Lancy. Voilà. En tout cas, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que on voit bien, n'est-ce pas, qu'il y a... j'allais dire que vous travaillez sur un peu deux tableaux, soit l'idée d'un fait, hein, la représentation d'un fait, une femme nue qui peut-être sort de l'eau, qui peut-être est là dans une scène de guerre, peut-être a-t-elle un peu beaucoup peur, hein, certains d'entre vous hésitent un peu peut-être sur ce plan-là. Il y a le soldat qui regarde la femme alors que la femme nous regarde comme pour nous prendre un témoin. Et puis d'autres disent plutôt, hein, c'est peut-être une idée plus allégorique, c'est-à-dire pas une image qui représente un fait, mais plus une idée, le temps, par exemple.
Est-ce que ce soldat est chargé de la garder ?
Ben, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est peut-être ça, oui.
Peut-être ça, mais est-ce que c'est sûr ?
Non.
Ben non. C'est compliqué, hein ?
Est-ce que le soldat
soldat n'est pas la projection de l'avenir de l'enfant.
Ah, le soldat serait là, c'est l'avenir en quelque sorte. Hein. Finalement, les trois âges de la vie, comme dans le tableau précédent, sauf que là, il n'y en a que deux, si j'ose dire. Hein, l'enfant, l'enfant et l'enfant plus âgé.
Elle est en fuite, c'est
intéressant. Pardon ?
Elle est en fuite.
Elle est en fuite ? Bah, moi, je trouve qu'elle est quand même très assise et qu'elle ne bouge pas trop. Hein. Parce que là, elle est... Alors, c'est vrai qu'elle a les jambes de telle manière qu'on a l'impression qu'elle court. Mais non, elle est assise, hein, nue. Elle allaite son enfant assez tranquillement. Bon, son visage... quelqu'un disait par exemple tout à l'heure qu'elle avait l'air effrayée. Je ne crois pas qu'elle ait l'air effrayée, mais elle n'est pas non plus complètement cool, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Et encore une fois, le fait qu'elle nous regarde... fait quand même qu'on est intégré. Enfin, moi, je trouve que le regard de la femme est quand même, hein, vous aviez raison de le signaler, quand même, interroge en tout cas. Hein. C'est pas, moi, je sais pas, mais je trouve le fait qu'elle nous regarde et qu'elle nous prenne un témoin, nous, gens du 21e siècle, ce tableau a été fait il y a quelques siècles, hein, est quand même une manière de nous intégrer dans la scène.
Mais c'est incohérent entre le fond qui est. Un orage qui est blanche, qui doit être très tumultueux.
Ouais.
Et puis devant, c'est plutôt calme.
Oui, plutôt... Ah, oui, ça c'est vrai aussi. C'est-à-dire que, oui, on a une sorte de contraste hein, entre un phénomène climatique fort hein, et puis un premier plan presque idyllique. On est dans la campagne. Oui, on parlait de bergère tout à l'heure. Hein. Oui, absolument. Ça, c'est assez, évidemment, effectivement, assez curieux. Un côté un peu disparate. Alors, on a l'impression de gens qui sont posés là, plouf, plouf, plouf. On a l'impression d'un paysage, en effet, le tonnerre. Une femme, plof, qu'on a mis là. Le soldat, dont on ne voit pas très bien ce qu'il vient faire là, on a l'impression qu'il est parachuté là. Donc une sorte d'incohérence dans l'organisation. Pardon ?
Il ne semble pas avoir vraiment une tenue de soldat. Enfin, je ne connais pas la tenue des soldats, c'est pas clair, mais il est plutôt chic.
Alors, c'est vrai qu'il a la tenue d'un soldat pas trop raître, si j'ose dire. Alors, il a quand même un peu une tenue de soldat, parce que dans l'Italie médiévale, des soldats, mais j'allais dire, pas ceux qui sont sur le champ de bataille à se bagarrer, hein, peuvent être habillés comme ça. Hein. Mais vous avez raison de dire que, par exemple, il n'a pas d'armure, hein, il n'a pas de casque, il n'a pas de cuirasse. Hein. Donc, effectivement, c'est un soldat... j'avais presque dire en réserve. Enfin, voilà. Alors, il a une lance, ok. Mais voilà, c'est pas un soldat. Donc, l'idée de la guerre de tout à l'heure hein, est un peu tempérée par ça. On a une sorte de soldat, mais en temps de paix, peut-être. Enfin, c'est... Donc, il y a. Pardon ?
Un soldat d'apparat.
Un peu une sorte de soldat d'apparat. Donc, c'est intéressant parce que finalement, avec tout ce que vous dites là, mine de rien, vous signalez toute l'ambiguïté de cette peinture. Hein. Il y a un orage là, un peu fort, hein. Le ciel est très noir, hein. Il y avait des éclairs, hein. Et puis au premier plan, il y a une dame qui allait son enfant, toute nue, bon, donc ça a l'air assez tranquille. En même temps, elle nous regarde d'un côté un peu interrogatif, tiens, pourquoi ? Bon, il y a un soldat, on se dit, oh, soldat guerre, hein, attention, hein, voilà. Puis le soldat, bon, il a l'air un peu tranquille, hein, il est là. D'ailleurs, tout à l'heure, on a pris pour peut-être un berger. Hein, donc, il n'a pas l'air d'être... c'est pas un reître épouvantable qui va mettre la campagne à feu et à sang. Donc, vous soulignez bien le côté très ambigu, très curieux, très étrange de cette composition, où en plus, au premier plan, on a ces personnages qui sont un peu posés là, dans une scène qu'on a du mal à décrire, finalement. Vous seriez d'accord avec ce... Oui ?
Est-ce que ça veut pas dire que... comparant le premier tableau, ça se passe dans trois endroits différents du monde, et que là, s'il y a une guerre ou une catastrophe sur un endroit du monde, l'autre partie du monde s'en fout. Et l'autre partie va être envoyée, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, on serait chacun enfermé dans notre secteur géographique.
Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui évoquerait, si je vous comprends bien, hein, parce que vous feriez une association entre les deux tableaux ? Oui ?
Non.
Alors ça, c'est par contre, c'est pas sûr. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas non plus la même taille. Donc, je pense pas que ces tableaux fassent partie d'un ensemble, vous voyez. Hein. Par contre, on peut y retrouver, car ces deux tableaux... Ah, je vais pas vous le dire, parce que si je vous le dis... mais bon, votre idée, votre proposition, elle est intéressante, elle doit nous faire réfléchir, mais... je crois qu'on peut dire quand même que, même s'ils peuvent poser des questions un peu équivalentes, et je crois que vous n'avez pas tort de faire un peu le point, finalement. Dans le tableau précédent, on s'est quand même un peu posé des questions. Hein. Ces trois personnages qui sont ensemble d'accord, mais qui ne se regardent pas. Y avait aussi des espèces d'incohérences dans le tableau précédent, qui là vont un peu jusqu'au bout. Quoi, hein. Donc, moi, je suis assez d'accord avec vous pour dire que entre ces deux tableaux, même s'ils n'appartiennent pas au même ensemble, hein, y a les ponts, en quelque sorte. C'est bien de retenir cette idée, oui.
Mais si on va dans l'idée d'une allégorie, est-ce que ça pouvait pas être cette femme qui, alors je sais pas comment les peintres le représentent habituellement, mais qui imagine l'avenir de son enfant à travers...
C'est le peintre qui représenterait ça.
Oui, qui représenterait l'imaginaire futur. Enfin, futur.
Ou une sorte d'allégorie de la maternité, par exemple.
Non, du devenir de son enfant,
de lui.
Plutôt.
De lui-même.
De son enfant.
Ah, de son enfant.
Oui, le devenir de son enfant, un homme armé, et puis les ruines derrière, enfin quelque chose...
Une sorte d'allégorie au... Ben, c'est vous qui parliez tout à l'heure d'allégorie du temps. Hein. Oui. Ça va un peu dans le même sens, finalement. Hein. Toujours une démarche allégorique.
Mais ce que... Là, je me dis, est-ce qu'un peintre peut représenter un rêve comme ça, par exemple, à faire un rêve, une projection...
Ah, le peintre peut tout faire. Les artistes sont capables de tout. D'ailleurs, c'est bien ça qu'on les aime. Donc, il peut tout à fait. Ça, un artiste a tous les droits. C'est bien... Enfin, entre guillemets. Hein. Mais donc, un artiste peut parfaitement faire ça. Ouais. Bien. Ben, je crois que ça serait intéressant, ce que vous avez dit, même si vous pouvez vous dire, bah oui, mais la solution, c'est quoi hein ? Parce que finalement, pour l'instant, on a décrit les tableaux plutôt bien. On a vu ce que ça pouvait représenter. À mon avis, pas mal. Mais la solution, c'est quoi ? Alors, avant de voir quelle est la solution, est-ce que vous avez d'abord une idée, ces deux tableaux, de quels, donc qui ont été peints en Italie au 15e ou 16e siècle, hein, ça, puisque c'est le sujet de ces ateliers, vous le savez déjà. Mais est-ce que vous avez une idée, peut-être, du secteur de l'Italie où ils ont été faits, et d'une période dans cette fourchette 15-16e ?
Sûrement pas 15e.
Sûrement pas 15e. Pardon ? 16e.
C'est très coloré.
Celui-là,
deuxième moitié du 16e.
Deuxième moitié du 16e ?
Oui.
Ok. Alors, donc, on est au 16e, mais plutôt dans la deuxième. Tout le monde est OK avec ça, deuxième moitié du 16e ?
Pour celui-ci seulement.
Ben, commençons par celui-là.
Dans le nord du Vatican. La végétation fait penser quand même plutôt à l'Italie du Nord.
L'Italie du Nord. Vous avez une idée d'une région plus qu'une autre ?
C'est très coloré.
C'est très coloré. Bon, on peut revenir en arrière hein, au tableau précédent. On va commencer par le tableau précédent. Gardons notre méthode. Non, ça, c'est pas. Alors, zut, je ne sais jamais comment. Voilà. Voilà, bien. Alors, comment savoir celui-là ? Celui-là, donc, datation à peu près, deuxième moitié 16e, tout le monde était d'accord là-dessus ou pas ? 16e, plutôt début, plutôt fin ? Mouillez-vous. Plutôt début ? Ouais, plutôt début ? Ah, ben, ça, c'est la question. Pardon ?
Ce n'est pas la construction du Vatican ?
Non. Non, non, non. Donc, en tout cas, 16e et plutôt début 16e. Certains disaient plutôt fin pour le 2e. Donc, et là, vous avez... Quelle région de l'Italie, là ?
Le nord.
Le nord, il y a les montagnes. Un peintre peut faire n'importe quoi. Hein. Moi, je connais des peintres chinois qui ont besoin des paysages occidentaux. Hein. C'est pas parce qu'on peint des paysages de montagne qu'on habite forcément dans le nord de l'Italie. Je vous dis au pas, c'est peut-être le cas, hein, mais c'est pas parce qu'il y a des montagnes qui fait penser aux montagnes d'Italie du Nord que cet artiste a peint en Italie du Nord. C'est possible, mais c'est pas obligatoire. Hein.
C'est très boisé.
Très boisé. Donc plutôt Italie du Nord, 16e siècle, et je sens quand même une volonté d'y voir quelque chose à la première moitié du 16e siècle. Ça vous va, ça ?
Oui.
C'est l'opinion générale, à peu près ? Même s'il y a des opinions particulières. Ça vous va ? J'essaie de faire un consensus, vous le remarquerez. Je devrais me lancer dans la politique. Et donc là, on était toujours dans Italie, bien sûr, plutôt du Nord, hein, vous l'avez dit, et plutôt, alors il y avait des premiers ou deuxième moitié du 16e, là. Deuxième moitié, vous vous pensez plutôt
oui.
Oui, plutôt deuxième. Ouais. Bon. On en reste là. Alors, résultat des courses. Un instant de respiration pour reprendre son souffle. Ce premier tableau est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Giorgione. Alors, vous aviez raison quand vous parliez du Nord, parce que c'est un artiste d'où ?
De Venise.
C'est un artiste vénitien qui a travaillé donc à Venise au XVIe siècle, mais au tout début du XVIe, et même fin XVe, début XVIe. La vie de Giorgione est très très courte, hein, vous le voyez, hein, pas vécu longtemps, mais c'est un artiste très important, et un artiste donc dont l'œuvre hein, commence à l'extrême fin du XVe et se termine, il meurt en 1515, au tout début du XVIe. Vous voyez, c'est extrêmement précoce. Hein. C'est d'ailleurs, à mon sens, très étonnant quand même. Hein. On est là au tout tout début du XVIe. Hein. Wow. Donc, trois. Et le tableau s'appelle. Enfin, on l'appelle Trois philosophes. Hein. Bon, on a pas mal tourné autour du thème tout à l'heure, je vais pas y revenir. L'interprétation qu'on fait souvent de ce tableau, parce que c'est un tableau qui fait l'objet de beaucoup d'interprétations. C'est pas clair, mais on a bien senti dans la discussion de tout à l'heure, ça n'était pas non plus. Hein. On pense en effet que ce tableau représenterait trois philosophes. Avec le thème de la grotte, on en a parlé. En même temps, c'est les trois âges de la vie. Bon, on en a parlé, vous l'avez trouvé. C'est trois origines géographiques différentes, donc trois philosophies différentes, orientales, occidentales, que sais-je. Bien, donc tout ça, tout vous l'avez dit. Hein. Et en fait, vous avez bien fait le point sur l'état de la recherche sur ce tableau. Par contre, pour l'instant, on ne voit pas du tout d'interprétation plus poussée de ce tableau. On se dit pas, par exemple, bah tiens, ça c'est, je sais pas, Socrate jeune ou Platon jeune, ça Avicenne et ça, je sais pas, Averroès. Enfin, je sais pas. Hein, voilà. Au-delà de ce titre, les trois philosophes, qui reste un titre un peu vague, hein, parce que tout le monde est philosophe, nous le sommes tous d'une certaine manière. Hein. À part ça, c'est un tableau qui pointe tous les points que vous avez bien identifiés. Mais pour lequel l'interprétation plus poussée reste un peu flottante. En clair, c'est un tableau qui reste encore un peu. C'est un tableau très poétique quelque part, hein, très intellectuel, mais un peu mystérieux.
C'est très doux par rapport au second qui est violent.
Oui. Alors je demande si on part du second. Le second, à votre avis, est-ce que. Enfin, de quel. D'abord, est-ce que vous avez une idée de qui est l'auteur du second ?
Oui, le même.
Eh bien, voilà, le même. Hein. Le deuxième tableau est également une œuvre de Giorgione. En fait, ces deux œuvres sont du même artiste. Et on appelle ce tableau, en général, la tempête. Ah, vous allez dire, ça va pas loin. Hein, parce que, mais le problème, et on l'a bien senti quand vous avez... On a pataugé, je vous ai laissé patauger dans le tableau volontairement. Hein, parce qu'à vrai, sur ce tableau-là, on ne peut pas dire tellement autre chose. À vrai dire, tout le monde, il y a des bouquins qui ont été écrits sur ce tableau, qui est vraiment un tableau un peu iconique du XVIe siècle italien. Hein. C'est un tableau ultra connu. Hein. On ne peut pas envisager la peinture italienne du XVIe siècle, ou de la fin du Moyen-Âge, puisqu'encore une fois, hein, on est autour de 1500. Hein. 1500, c'est la dernière année du Moyen-Âge, d'une certaine manière. Hein. Donc on est encore au Moyen-Âge. Et ce tableau que vous voyez là est un tableau à la fois iconique, hein, c'est une œuvre ultra célèbre, etc. Complètement novatrice, mais très, très étonnante, parce que, à vrai dire, on n'y comprend rien. Hein. Déjà, dans les trois philosophes d'avant, on se posait des questions, bon, enfin, on sentit en disant ces trois philosophes, puis on a réglé le problème. Là, on a bien vu que tout ça a été très compliqué. C'est un tableau ambigu, bizarre, bon, on ne sait pas ce qu'il raconte, on ne sait même pas s'il raconte quelque chose, si ce n'est pas plutôt une allégorie. Voilà. Donc on est là, devant deux tableaux, et peut-être surtout celui-là, des tableaux illustrissimes. Hein. On n'aborde pas la peinture italienne du XVIe siècle sans les connaître. Hein. Oui.
Et on n'a pas de détails sur l'histoire du tableau.
On connaît des éléments hein, sur leur histoire, mais qui ne permettent pas du tout d'éclairer davantage le sujet des tableaux en question. Qui d'ailleurs n'est peut-être pas. Enfin, c'est peut-être un non-sujet. C'est-à-dire, le sujet est peut-être uniquement. Enfin, c'est une unicité qui est riche, hein, mais uniquement allégorique, encore une fois. Hein. Voilà. Donc, l'histoire des deux tableaux ne permet pas d'éclairer cette historique, cette identification-là.
Pourquoi sont-ils considérés comme extraordinairement illustres, si je puis dire ?
Pour tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire le fait que quand on est dans ce tableau-là, c'est d'une ambiguïté totale.
Oui, c'est
il fait le ciel se défonce, n'est-ce pas ? Alors que devant, il y a une femme qui est tranquille.
Oui, alors, hein. Par rapport aux autres de cette époque, par rapport.
Alors ça, on va un peu en voir. Hein. Passez en revue, par exemple, l'aventure du XVe siècle comme vous la connaissez, quoi. Vous ne trouverez rien de tel.
Ben oui.
Et les titres sont donnés par qui ?
Alors, il faudrait regarder précisément. La tempête est un titre qui existe. Alors, ce tableau, on a plusieurs. La tempête est le titre qu'on donne le plus souvent. Quelquefois, on l'appelle l'orage. Enfin, l'orage, voilà, hein. Donc voilà, c'est pas le titre n'est pas en tout cas pas.
C'est pas le de Giorgio.
C'est pas forcément le titre donné par Giorgio. Ce qui ne simplifie pas l'ambiguïté de la chose. Mais justement, la nouveauté aussi, c'est précisément que cette ambiguïté dans les deux tableaux, elle est peut-être voulue, justement. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de représenter, je ne sais pas, moi, Moïse frappant le rocher, ou le Christ en croix, vous voyez ce que je veux dire. L'idée est de représenter un sujet flottant, un sujet qui nous permet, nous, en Europe, à la fin du XVe, début du XVIe siècle, et au moment de la Renaissance, de proposer non pas des sujets dont on voit exactement ce qu'ils sont, on voit que c'est Saint-Antoine en train d'être tenté par le diable, je ne sais pas quoi. Non, c'est des sujets qui ont pour but, si vous voulez, en permanence, parce que, il y a eu des bouquins entiers et nombreux écrits sur ce tableau-là, par exemple. Hein. N'empêche qu'on n'a toujours pas la clé. Et c'est peut-être le but. Le but, c'est peut-être, je vous rappelle que le XVIe siècle, c'est le monde de l'humanisme, hein, où on essaie, de creuser intellectuellement le monde, en quelque sorte. Eh bien, ça, c'est des tableaux qui vous permettent d'écrire des thèses, et au bout de votre thèse, d'arriver à rien, sinon d'en écrire une deuxième. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est peut-être ça l'intérêt, justement. Et ça, c'est novateur. Tiens, l'idée n'est pas de nous proposer, j'allais dire, un thème fini, une histoire qui a un début, une fin, puis c'est réglé, mais un sujet qui, excite l'intellect. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est aussi une idée très nouvelle. On n'est pas devant un sujet qui est plié, si j'ose dire, mais devant quelque chose qui reste flottant. Hein. Quelque chose qui décline une sorte de nouveau type d'imaginaire. Et ça, on n'est pas à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance pour rien. Vous voyez ? Alors, ces deux tableaux-là, encore une fois, ultra célèbres, à la fois très intellectuels et quelque part un peu vides, parce que finalement, il n'y a rien à en dire, sinon tout ce qu'on a dit quand même, ce qui est beaucoup, on fait une demi-heure qu'on dégoise dessus. Hein. Ces tableaux sont donc des tableaux dus à un artiste vénitien de la fin du Moyen-Âge, ou du début de la Renaissance, ou des deux. Et donc, c'est autour de Venise qu'on va un peu travailler aujourd'hui. Et j'aurais quand même, parce qu'on a d'autres choses à voir, hein, qu'on aille dans notre deuxième exercice, 2. Et là, je vais vous montrer une série d'œuvres de toute une série d'artistes actifs à Venise au XVIe siècle, ou au XVe, au XVe et XVIe siècle. Et ce que je voudrais, en fait, c'est qu'on parle des sujets, bien sûr, qu'on essaie également d'identifier le peintre, si on peut, et qu'on les mette un peu aussi dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai choisi là quelques œuvres, pas des quantités, il y en a, je crois, 6 ou 8. Hein. J'aimerais que, si on peut, on identifie le peintre qui a réalisé l'œuvre, parce qu'il y a là-dedans des peintres quand même très très célèbres, hein, bon, qu'on identifie le sujet, et qu'on termine par la place des tableaux les uns par rapport aux autres dans une chronologie des 15e et 16e siècles vénitiens. Vous me comprenez ? C'est bon ?
Oui.
On commence ? Alors d'abord, on va commencer un peu à reculons par rapport à ce qu'on fait souvent, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est faisable. Est-ce que d'abord, vous avez une idée de l'auteur de cette œuvre-là ?
Titien.
Pardon ?
Titien.
Titien.
Véronèse.
Plutôt Véronèse. Qui dit mieux ? J'ai l'impression d'être un commissaire-priseur. Tiepolo. Alors, qui est pour Titien ? Une. Qui est pour Véronèse ? Oh, il y a plein de Véronésiens, là, hein. Eh bien, les Véronésiens ont raison, c'est Véronèse. C'est Véronèse, c'est une œuvre de Véronèse. Qu'est-ce que vous voyez? Quel est, à votre avis, le sujet de cette œuvre? Oui, on avait dit Titien. Alors, c'est pas Titien, mais Véronèse est un contemporain de Titien. Hein, donc, on peut confondre. Tiepolo, par contre, ce sera plus tard. Hein, mais c'est intéressant de dire Tiepolo quand même face à un tableau comme ça, que Tiepolo a été très, très, très inspiré par Véronèse. Or, Tiepolo, qui a vécu à Venise au XVIIIe siècle, avait des Véronèses sous les yeux en permanence. Si vous voulez. Donc, Tiepolo est une sorte de Véronésien du XVIIIe à Venise. D'accord? Donc, le rapport avec Tiepolo est intéressant. Quelle est la scène?
Des guerriers.
Alors là, on voit les vrais guerriers de chez guerriers. Hein. Là, pas de problème. Hein.
Il y a une présentation d'une fiancée.
Voilà ce garçon.
Alors, on présente effectivement qui?
Un homme.
Il y a un homme.
Il y a une femme à genoux.
Il y a une femme à genoux. Moi, j'en vois plusieurs de femmes à genoux.
Oui, non, mais enfin,
moi, j'en vois quatre. Hein.
C'est celle qui est centrale.
Enfin, trois et demi.
C'est un prince, un roi.
Oui, oui, mais au centre, vraiment, c'est auprès.
Alors, là, il y a un monsieur, là, derrière. Hein, prince, je ne sais pas. Hein, c'est un homme, ça, d'accord. Il y a un homme
qui présente
à des soldats, ok.
Vous la femme en bleu.
J'en vois une, deux, trois.
Non, mais.
Et quatre.
On présente la femme en bleu et ce sont ses suivantes.
Oui. Alors, on présenterait la femme en bleu et ce sont les suivantes.
Oui.
Okay. Oh, aux soldats qui sont là.
Ils regardent plutôt là. Oh, elles sont richement vêtues.
Elles sont très richement vêtues. Hein. Oh, en gros, c'est pas n'importe qui.
Non, mais ce sont des princesses suivantes.
Ce sont des princesses. Oui. Hein. Donc, on présente à des soldats des princesses.
Captives.
Elles implorent peut-être la grâce des soldats. Donc ça pourrait être quel type de scène, effectivement, peut-être? Je ne vous dis pas d'identifier, mais quel type de scène? Si effectivement on a des femmes là qui implorent des soldats, qu'est-ce qui se serait passé? Pardon? La reddition d'une ville ou d'un empire ou d'une principauté. Hein, ou alors, eux, ce serait qui les soldats? Les vainqueurs, et elles, les vaincus. Donc ce sont des princesses qui se rendent, on pourrait dire, à des soldats. Hein. Non, c'est pas ça.
Ça peut être simplement...
Choisissez votre fiancée.
Ah, c'est donc là, on choisit un des messieurs, elle a choisi sa fiancée.
Non, elle a l'air d'implorer.
Oui, on a effectivement, on a l'impression quand même d'une attitude d'humilité au centre, hein. Certaine humilité quand même. Hein. On sent qu'elles sont pas en position de force, on va dire.
Oui, mais l'homme.
Ah ben.
Elles sont pas de la même
taille. Ben oui, parce qu'il y a une petite fille là. Hein. Ah, il y a des princesses de tous les âges, hein. Alors, des grandes, des petites, des moyennes, comme ça les princesses. Regardez la famille de Monaco, hein. Pour citer les princes les plus remarquables de notre continent, n'est-ce pas? Ça se passe dans quel contexte tout ça?
D'une ville somptueuse, d'un palais.
Une ville, oui.
D'un palais.
Un palais, hein. Qu'est-ce qui montre d'ailleurs une certaine magnificence?
C'est l'architecture.
L'architecture, puis il y a d'autres détails, à mon avis, qui montrent quand même qu'on n'est pas. Oui, alors il y a un singe, par exemple. Tout le monde n'a pas de singe, quand même. Il y a un petit singe, là. Hein.
Et tous les personnages qui assistent du haut de...
Il y a des spectateurs là-haut, oui. Il y a deux petits détails aussi qui montrent qu'on est vraiment dans une cour, quoi, qu'on n'est pas chez des reîtres qui viennent de soumettre un vague village, quoi. Hein. Ah, alors on dit bijoux, hein. On le disait tout à l'heure, les princesses, elles sont très parées, hein. Absolument. Vraiment, il y a cette attitude d'humilité. Vous avez raison. Vous avez deux nains. Hein. Et on en a parlé l'année dernière avec Velázquez. Hein. Le nain, c'est, je dirais, l'élément de la cour. Hein. Qui dit cour, dit nain. Hein. Vous savez que dans certaines cours européennes, hein, le nain est un élément important avec le prince. C'est à Mantoue, je crois, hein, au palais ducal de Mantoue, qu'il y a un appartement de tout petit spécial pour les nains du prince, qu'on visite, alors qu'il faut se mettre comme ça pour visiter, mais ça existe. Hein, le nain est un élément important de la cour, hein, parce que le nain il est vraiment chez le prince. Hein. Donc on est chez les princes, hein, voilà, qui ont des singes, qui ont des nains, on est dans un palais, etc. Elles sont très parées. Hein, voilà. Vous avez une idée d'un épisode qui pourrait évoquer ça ? Un épisode historique, plus ou moins légendaire, mais enfin assez réel aussi. Non ? On le verra tout à l'heure. Parce que là j'ai une solution à vous donner. Hein. Plus, moins nuageuse qu'avec Giorgione.
C'est la reddition de la ville ?
Oui, mais laquelle ? Et quelle famille ?
C'est pas Chypre, la reine de Chypre ?
Non. Bon, mais on verra tout à l'heure. C'est pas... À la limite, c'est secondaire. Dernier point, vous caractériseriez comment cette œuvre de Véronèse, stylistiquement parlant ? Qu'est-ce que vous dire si vous aviez 5 mots à dire pour caractériser le style de Véronèse tellement présent ici ?
Très coloré.
Très coloré. De la couleur.
Il y a une construction étonnante en diagonale et des personnages.
Oui, c'est. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est à la fois foisonnant et construit. Hein. Foisonnant parce qu'il y en a partout et construit parce que c'est pas le bazar, si vous voulez. C'est pas le bololo, comme diraient certains. Hein. C'est très construit et c'est foisonnant.
Et ces personnages qui sont comme si on était presque dans une photographie, à moitié, ils sont coupés, les personnages, ils se continuent hors du tableau.
Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Oui. Il y a peut-être, donc vous avez parlé d'une construction foisonnante, mais très structurée. Vous avez parlé d'un chromatisme puissant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour caractériser le style de Véronèse ?
Toutes les scènes de devant sont très, très colorées. Et puis
ouais.
Au fond, c'est vraiment...
Oui, il y a effectivement une sorte de perspective. Ça va un peu dans le sens qu'on dit, ouais. Ça continue sur les côtés. Hein,
c'est panoramique.
C'est panoramique.
Mmh.
Oui. Je pense qu'on pourrait quand même insister, vous avez insisté sur la richesse des couleurs, mais sur la richesse des décors, des vêtements, etc. Véronèse, c'est le luxe. Hein. Il y a, Véronèse, il représente des gens avec des bijoux, des colliers, il y a de la bague, il y a de la dorure, il y a de l'armure qui est rutile. C'est pas notre petit soldat tout à l'heure avec ses choses. Voilà, hein, c'est, on est dans le rutilant. Hein. Véronèse, c'est les palais, c'est les. Voilà, c'est ça. Hein.
Et les personnages sont très identifiables.
Oui, sauf que là, vous ne les avez pas identifiés, mais c'est pas...
Ouais. Non, mais je pense que les contemporains devaient les reconnaître.
Oui, sans... En tout cas, on peut, comme on l'a fait tout à l'heure, identifier la scène. Alors, après, des scènes de reddition, il y en a plein, hein, donc on a le droit aussi de ne pas trouver cette scène-là, parce que ce n'est pas si simple. Hein. Mais effectivement, on peut, rien qu'en regardant ça, ce qu'on a fait tout à l'heure, voir qu'il s'agit d'une scène de reddition. En fait, c'est très... causant, très bavard, ça dit plein de choses, mais on arrive à les trouver. Alors après, on ne trouve peut-être pas les personnages, mais vous avez raison, on arrive quand même à identifier le type de scène. Bon, je crois qu'on a pas mal travaillé sur Véronèse, on va passer à un autre. Hein. Autre icône hein, du XVIe siècle vénitien.
Titien.
Alors, le sujet... Donc le pape, vous avez trouvé, Titien, bon c'est un des tableaux les plus célèbres du Titien, voilà. Hein. Donc Titien, ça représente quoi ? Qui ?
Une odalisque.
C'est ce qu'on aurait appelé plus tard une odalisque, oui. Mais qu'au XVIe siècle, on appellera plutôt quoi, comment ? Vénus, c'est Vénus. Hein. En tout cas, c'est une femme nue, et une femme nue comme ça, alanguie au XVIe siècle, c'est forcément Vénus. La déesse de la beauté, de l'amour, etc. Alors, on n'est pas dupe, c'est-à-dire que c'est une Vénus contemporaine, quelque part. Hein. Mais c'est quand même la Vénus, d'ailleurs, on l'appelle la Vénus d'Urbain, hein, parce que, du fait de son histoire. Mais voilà, c'est une œuvre très célèbre de Titien. Qu'est-ce que vous auriez à dire, là, au-delà de ce sujet-là, donc une Vénus, un peu encore une fois une Vénus de convention, hein, c'est pas la Vénus gréco-romaine, etc. Hein, c'est parce que vous voyez quand même que le décor est pas trop gréco-romain. Hein, bon, mais c'est la Vénus avec un grand V éternel, hein, que vous êtes toutes, mesdames, quelque part. Hein, voilà. C'est ça, c'est cette idée-là.
Hein,
avec le chien, la fidélité, absolument. Hein, sur le lit, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on voit en blanc ? Il y a une femme appuyée.
Oui, alors, qu'est-ce que vous voyez derrière, effectivement ?
Une femme qui fouille dans un arrière-fond.
Oui, voilà. Elle fouille donc, c'est qui, ces deux personnages ?
Les servantes.
C'est les servantes.
Elle fouille dans un coffre.
Absolument. Hein, c'est les servantes. Donc, vous voyez que c'est une Vénus qui a un côté très profond. Parce que Vénus, la vraie Vénus, celle de Zeus, si j'ose dire, enfin, des cieux, elle n'a pas besoin de domestique, quoi. De toute façon... Voilà, là, c'est donc une Vénus qui serait descendue sur Terre, vous voyez. Hein. C'est là une Vénus domestique, quelque part. Hein. C'est une Vénus terrestre, mais c'est Vénus quand même. Oui. Ici.
Des fleurs.
Oui, 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 oui. Alors, si vous aviez... Et là, on a été assez vite au niveau de la représentation. C'est Vénus, encore une fois, une Vénus domestique, j'allais presque dire profane, terrestre. Si vous aviez à décrire un peu le style ici de Titien, vous diriez quoi ? La manière, ça veut dire de peindre.
C'est
lumineux. Oui, alors lumineux, oui. Par rapport, vous pouvez peut-être travailler par rapport au précédent, par rapport à Véronèse. Oui, c'est moins foisonnant, effectivement. Hein. C'est une peinture plus concise. Hein. C'est moins, on va dire, même si ce n'est pas péjoratif, c'est moins bavard que Véronèse. Il y en a, hein. On n'a pas fini. Hein. Là, c'est beaucoup plus concis.
Oui, enfin, il joue avec le drap blanc, avec
oui.
Les plis du drap blanc.
Oui.
Enfin, bon, c'est quand même... Il montre sa manière de faire. Hein.
Oui. Et justement, par rapport au coloris, par rapport à Véronèse, vous diriez c'est quoi c'est plus... Il y a moins de coloris, il y a un côté un peu nordique. C'est pas faux. C'est-à-dire que, quelque part, on n'a pas cette espèce de phosphorescence des couleurs de Véronèse, où ça claque dans tous les sens. Là, on a effectivement une palette de couleurs beaucoup plus concise. Hein. Quelque part, un peu plus nordique, hein, c'est vrai. Et où on varie sur, par exemple, le blanc. Elle est blanche, entre guillemets, sur un drap blanc. Donc, vous voyez, c'est du blanc sur blanc, quoi.
Oui, hein. Mais sur un presque la moitié très sombre.
Ah oui, absolument. Mais finalement, c'est un tableau assez monochrome. Hein. C'est-à-dire qu'on va du blanc au noir, quoi. Oui. Hein. Alors, bien sûr, il y a des nuances de rouge, d'ocre, etc. Mais on n'est pas dans la fulgurance chromatique d'un Véronèse. Hein.
Le fond est vraiment partagé en deux parties.
Absolument, oui. Alors, ça, c'est important aussi, parce que c'est très structuré, mais pas comme Véronèse. Véronèse, c'est une structuration foisonnante. Là, on est dans quelque chose qui est très... j'allais presque dire très minimaliste. Hein. Vous avez un tableau coupé en deux dans le sens de la hauteur et coupé avec une diagonale sur le devant, puis c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est, la structure, elle est très, très simple. On est vraiment, avec un tableau comme ça, dans une organisation très, très minimale, hein, au niveau de la couleur et au niveau de la structure. Hein. Véronèse, ça allait dans tous les sens, même si on avait bien vu qu'il y avait une structure de base. Hein. Mais là, finalement, la structure de base se retrouve jusque dans ce que la peinture nous montre. Et effectivement, le chromatisme est assez resserré.
Il y a quand même cette perspective grâce au sol,
l'échappée derrière. Oui, l'échappée sur la droite, et puis en plus, il y a une double échappée dans la salle derrière, dans la fenêtre derrière la salle. Ouais. D'autres choses à dire sur Titien ? Non ? On passe au suivant ? Alors, d'abord, est-ce que vous avez une idée de l'auteur ? Raphaël ? Ou bien ? Bellini ? D'autres enchères ? Je trouve que ça lui ressemble un peu. C'est pas tout à fait faux. Dommage qu'il ne soit plus là pour... valider cette approche. Alors, au niveau du thème, on peut commencer par là. C'est une Vierge et l'enfant, pas de problème, effectivement. Hein. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire sur le sujet de l'œuvre, là, sur ce qui est représenté, Vierge et l'enfant, et puis... La Vierge est très colorée, oui. Et qu'est-ce qui se passe derrière, oui ?
Il y a une ville.
Ouais.
Des animaux.
Derrière, il y a un paysage.
Un monastère. Hein,
grand paysage, assez panoramique aussi. Hein, ouais. Avec effectivement une ville.
Un monastère, une fortification.
Monastère, oui.
Oui, fortification.
Oui, des travaux des champs.
On voit en tout cas des choses qui évoquent les travaux des champs, des paysans, des animaux, des vaches, des bêtes.
Il y a un oiseau.
Un oiseau, une sorte de...
Oui, l'oiseau noir là-haut.
Un oiseau noir là-haut, une sorte de corbeau. Oui.
La position de l'enfant.
Très belle nuance, et l'image ne rend pas forcément honneur à la qualité du chromatisme. Donc, une Vierge et l'enfant dans un paysage. Au niveau des auteurs, vous en avez cité deux, Raphaël, Bellini.
Bellini, c'est
Vous avez d'autres idées ou qu'est-ce que vous pensez de ces deux propositions?
Raphaël,
vous plairait bien?
Non.
C'est le bleu.
C'est le bleu,
c'est le bleu.
Ouais, peut-être le bleu. Ah, seulement nous sommes à Venise. Et à Venise, c'est plutôt Bellini. Et oui, Bellini, Giovanni Bellini. Hein, Giovanni Bellini, c'est un des grands représentants de la peinture à Venise à la fin du Moyen-Âge, on va dire, parce qu'il est à cheval sur les 15 et 16e siècles. Hein. Alors c'est compliqué, Bellini, parce qu'en fait, il y en a trois de Bellini. Hein. Il y a Jacopo Gentile et Giovanni. Le plus prolixe, celui dont on a plus d'œuvres, c'est Giovanni, qui est l'auteur de cette Vierge et l'Enfant, vous voyez là.
Elle a quelque chose, je trouve, de douloureux.
De douloureux.
Et la position de l'enfant me fait penser à une Pietà.
Alors, c'est vrai que c'est à la fois quelque chose qui montre une sorte de Pietà. Vous dire quand elle voit le visage de Raymond Barre, elle doit être un peu effrayée. Hein. Donc, il y a un côté, effectivement, un tout petit peu douloureux. Mais est-ce que vous ressentez cette douleur tant que ça?
Enfin, c'est pas...
Pardon ?
Interrogative.
Interrogative. Attentif, peut-être. Attentif. Non. C'est-à-dire, moi, j'aurais tendance à dire, mais chacun y trouve ce qu'il veut, hein, une sorte de sérénité attentive. Moi, je la trouve pas. On sent qu'elle regarde. Enfin, c'est son gosse. Hein, alors. Effectivement, on ne peut pas ne pas penser à la Pietà derrière. Ça, vous avez raison. Hein. Et d'ailleurs, on aime beaucoup dans la peinture faire ce rapprochement-là. D'autant qu'il y a un oiseau noir qu'on peut interpréter comme étant un sombre présage. Hein. Voilà. On est quand même au début de la carrière de l'enfant. Hein. Donc, il y a une sorte de sérénité inquiète, on pourrait peut-être dire, hein, en jouant un peu sur cette ambiguïté-là. Hein. Elle n'est pas ravie, mais elle n'est pas non plus à pleurer déjà, parce qu'elle sait que ça va mal se finir. Quoi. Il y a peut-être qu'elle sent, et la forme de Pietà peut nous faire penser. Il y a peut-être autre chose, et d'ailleurs, quand vous parliez de Raphaël tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était intéressant, même si ce n'était pas ça, intéressant parce que ça renvoie à autre chose, dans la conception d'une scène comme celle-là.
C'est un triangle.
Oui. Oui, alors c'est très construit, vous avez raison, hein, un triangle, vraiment, c'est impec. Hein, voilà. Mais par rapport à la manière qu'a parfois de travailler Raphaël, il y a quelque chose dont on trouverait ici un écho, même si chronologiquement, ça irait plutôt dans l'autre sens. C'est quoi?
On a l'impression que l'enfant, c'est presque un collage.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
L'impression que le travail d'ombre se fait sur les tissus est beaucoup plus travaillé que le bébé.
Oui. Alors il y a peut-être aussi du fait que le tableau a eu des... Voilà, il y a quand même 600 ans, 500, enfin voilà. Donc il y a peut-être un peu... Je vois ce que vous voulez dire. À mon avis, c'était peut-être plus détaillé. Je ne suis pas sûr que la photo rentre bien. Je comprends un peu ce que vous voulez dire. Mais justement, par rapport... Vous disiez quelque chose tout à l'heure... d'une manière humoristique, mais ça ressemble à Raymond Barre. C'était un trait d'humour, mais qui, à mon avis, était intéressant pour suggérer autre chose, qui serait quoi.
Il a un peu inexpressif, l'enfant.
Ah, vous trouvez, vous? Enfin, inexpressif, je ne sais pas. Oui, il dort. Enfin, un enfant qui dort, il dort. Oui,
il dort.
Pardon, oui, je sais pas. Moi, je trouve que dans les bébés, on voit tout. Alors, voilà. Voilà, oui, moi, c'est ça. Je trouve qu'il y a des bébés qui ont des têtes qui font très. Enfin, moi, ce qui me frappe, c'est les bébés, surtout quand ils sont bébés, soit qu'ils ont l'air très vieux, au contraire. Il y a même eu un film là-dessus, vous avez peut-être vu, qui est très déroutant. Hein, où on voit un homme qui rajeunit, n'est-ce pas, qui naît vieux, quoi.
Oui, d'accord.
Bon, donc c'est une grande idée philosophique. Bon, bref. Donc moi, je trouve qu'il y a des bébés, effectivement. Moi c'est, ce qui me frappe, c'est plutôt, et c'est votre trait d'humour, toi, qui me faisait penser, c'est le côté assez, enfin, pas idéalisé, quoi.
Il est bébé, comme ça, oui. Bébé.
Bah, moi, je trouve. Alors, il a peut-être une tête pas très chouette, hein, voilà, qui ressemble un peu à Raymond Barre, mais moi, ce qui me frappe, c'est le fait qu'on n'est pas là devant ces vierges qu'on aimait beaucoup à l'époque gothique, vous savez. Pensez, par exemple, à la statue en France au XIIIe, XIVe siècle. Hein, on voit des vierges toutes souriantes avec le déhanchement, le bébé, tout est parfait, très bien, tout ça est très. Magnifiquement stéréotypé, mais idéalisé, si vous voulez. Chaque vierge ressemble à une autre, quoi. là, on a effectivement un gosse, il y a une drôle de tête, quoi. Hein, et quelque chose qui est presque d'un réalisme outrancier, qui fait qu'il peut faire ressembler à certaines caricatures modernes, effectivement. Et c'est là votre réflexion m'intéressait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a là quelque chose qui est... On n'est pas devant une vierge idéalisée, une de ces vierges à l'enfant gothiques qui ressemble à toutes les autres vierges gothiques. Vous voyez ce que je veux dire? On est au contraire dans quelque chose qui est beaucoup plus marqué, si vous voulez. Non, ça ne vous frappe pas, ça? Et c'est pour ça que, à mon avis, votre remarque autour de Raphaël n'était pas si malvenue, parce que justement, le travail de Raphaël, c'est ça. Le travail de Raphaël, ça a été de prendre la vie quotidienne et de la mettre dans sa peinture, de faire que la Vierge ressemblait à une femme de la rue. Parce qu'après tout, la Vierge était une femme de la rue. Donc il s'est dit, pourquoi est-ce que la Vierge serait forcément une femme couronnée avec des trésors sur la peau, alors qu'elle a accouché dans une crèche, dans une étable? Non. La Vierge, c'est une fille de la rue, donc j'avais posé, puis on fait une Vierge. Là, vous avez, chez quelqu'un d'autre qu'en Raphaël, mais une attitude un peu équivalente. C'est-à-dire que, d'accord, on voit que c'est une Vierge à l'enfant, mais on voit surtout une femme avec un bébé, quoi. Vous voyez? Il se trouve que c'est la Vierge à l'enfant, d'accord, parce qu'on connaît notre culture, mais voilà, il y a une dimension relativement réaliste et qui, à mon avis, apparaît dans le paysage derrière. D'ailleurs, vous l'avez remarqué tout à l'heure, vous avez dit, il y a des scènes, il y a même un oiseau, puis là, puis il y a une ville, etc. Donc, il y a une dimension, il me semble, non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non, moi, l'arrière-fond me fait penser, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait quelque chose de douloureux ou d'angoissant dans ce tableau. L'arrière-fond me fait penser un peu au paysage des surréalistes, quelque chose de...
Ah oui, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que les surréalistes ont beaucoup apprécié ça, hein, et ont beaucoup, mais... eux, mis à leur propre sauce ce genre de choses. Hein. Ils ont beaucoup aimé, je pense à Yves Tanguy, par exemple, ou hein, faire des espèces de trucs, de formes qu'elles font un peu molles, ou Ernst aussi, hein, des espèces de choses verticales, parce qu'ils sont beaucoup intéressés au fond des artistes italiens du Quattrocento, du 15e siècle ou du 16e siècle, vous avez raison. Mais le problème, c'est que l'histoire de l'art, elle va dans l'autre sens, vous voyez ce que je veux dire, hein. Sur Alice, c'est bien après.
Oui, mais cette impression qu'on peut avoir dans certains fonds de surréalistes comme ça, où il y a des paysages, où il y a quelque chose d'angoissant, je ne sais pas.
Oui, mais là, vous plaquez du 20e siècle sur du 15e, enfin sur la fin 15e, début 16e, ouais. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Vous voyez? C'est une idée que les surréalistes mettent, donc, parce qu'à l'époque de Bellini, surréaliste, il n'y en a pas. Quoi. Oui, vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais le côté angoissant qu'on ressent là, enfin que moi je ressens dans le tableau, ou douloureux, je ne sais pas, me vient beaucoup du fond.
Ah oui.
Du fond et des
couilles. Non, je crois que le point d'orgue est mis sur les deux personnages, et le reste est tout en monochrome et facile.
Oui, moi il me semble que c'est plutôt ça aussi, mais après tout, chacun réagit différemment. Moi il me semble, si vous voulez, qu'il y a la volonté de faire un triangle au premier plan avec une Vierge à l'enfant, qui n'est pas la Vierge stéréotypée que l'époque gothique nous impose magnifiquement, hein, mais qui est toujours la Vierge parfaite, avec le petit sourire, les yeux délicats, l'enfant idéal, etc. Mais là, plus une femme et l'enfant qui s'imposent devant un paysage qui rappelle les vrais paysages de l'Italie centrale. Hein, aller en Toscane, il n'y a pas photo, à mon avis. Hein, alors qui, effectivement, vont après beaucoup plaire, sur lesquels on peut plaquer. C'est vrai, quand il a fait très chaud, une fois, ces paysages sont un peu décharnés. Hein, ils peuvent entraîner un certain...
Il y a une monochronie.
Oui, c'est ça. Et qui met très en avant et très en valeur
la Vierge.
Dont moi je trouve qu'il y a une espèce de sérénité, peut-être de sérénité qui en même temps est inquiète, mais une sorte de relative douceur, je dirais. Enfin, moi je vois pas trop, je crois pas être de ça, parce que beaucoup de gens qui ont travaillé sur Bellini justement insistent sur une espèce de, non pas de suavité, hein, mais de relative douceur du travail bellinien. Notamment dans la manière un peu
gestuelle.
Oui, alors oui, c'est quand on est tout ça est assez calme, n'est-ce pas, on n'est pas, enfin je veux dire, rappelez-vous de la tempête de tout à l'heure, hein, c'était quand même un peu plus, hein,
là, c'est calme.
Là on est quand même plus devant une chose assez calme, une sorte de choses assez, alors bien sûr il y a de l'inquiétude, il y en a toujours, mais je crois pas que ce soit quand même l'élément premier du tableau, quoi. Enfin, je sais pas. Alors après, on a chacun nos affects, hein, par rapport aux œuvres, hein, bien sûr. Mais souvent la critique met plus en avant une sorte de oui, de douceur jusque derrière dans le coloris. Hein.
Le bleu du ciel.
Ouais. Et puis quand même, alors là la couleur est un peu stridente hein, par rapport au tableau lui-même. Le bleu est un peu phosphorescent. Hein. Normalement, il est quand même un peu un ton en dessous, ouais. Et en même temps très présent et en même temps très pulpeux. Vous voyez ce que je veux dire, ouais. Ce manteau de la Vierge, j'ai envie de se mettre dedans, je trouve. Enfin, je crois qu'il a un côté. Enfin, je trouve que c'est une couleur très belle pour ma part. Et... On passe au suivant. Voilà, là, il me semble qu'on a plus de pathos, vous voyez, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que l'inquiétude du précédent, je pense que ça tempérait un peu. Là, c'est du lourd, hein.
Le ciel.
Alors, d'abord, est-ce que vous avez une idée, puisqu'on a dit qu'on partait à l'envers, une idée de l'artiste. Ouais.
Il y a un corps à la Gréco.
Oui, oui, c'est vrai, oui. Oui, oui, il y a encore la Gréco au premier plan. Mais justement, c'est très intéressant ce que vous disiez ça, parce que vous savez que Gréco est passé par l'Italie, hein, et qu'il a vu des gens en Italie, ou des œuvres faites par des gens, et notamment l'un d'entre eux. Alors, si on ne sait pas qui c'est, qu'est-ce que ça représente ? Difficile de savoir. Hein. On est sur une sorte de... Oui, une rue ou une place, oui. Un homme mort, visiblement.
Un autre, un chameau derrière.
Un chameau derrière. Vous voyez le chameau, hein ?
Alors, un ciel.
Un ciel.
Un ciel chargé. Hein.
Voilà, là, je veux dire que...
Invraisemblable.
Des gens qui s'enfuient.
C'est très moderne.
Des gens qui s'enfuient. Alors, si le tableau précédent était inquiet, celui-là, là, c'est le cauchemar. Hein.
Des gens qui restent.
Des gens par terre.
Ils se traînent.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils tirent ?
Ah oui, on est peut-être devant, enfin dans un tremblement de terre. Hein. Voilà. Vous voyez, le ciel se déchaîne. La petite tempête de Georgian tout à l'heure, c'était sympathique. Hein.
Là,
pourquoi un chameau ?
Pourquoi un chameau ?
Non, rien.
L'architecture nous fait penser à quoi ?
Certaines parties de Venise.
Voilà, l'architecture fait vraiment penser à certaines parties de Venise. C'est pas la reprise d'un paysage vénitien, ça fait beaucoup penser à certaines parties de Venise. Ne serait-ce que la base Saint-Marc, d'ailleurs. Hein. Hein, voilà. Alors là, elle est plus étroite, etc. Mais il y a des parties de Venise, là, il y a des portiques comme ça, avec au fond, il y a une des églises de Venise, je ne sais plus laquelle, qui ressemble vraiment à ça. Peut-être, ouais. Donc on est là vraiment devant quelque chose, devant un espèce de paysage vénicisant, on va dire. Hein. Le thème est d'ailleurs très 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 lié à Venise, enfin au saint protecteur de Venise.
C'est Marc.
Marc. Alors c'est un épisode du soir, je vous le raconte parce qu'on n'est pas obligé de le connaître, hein. Mais quand Saint-Marc a été martyrisé, ceux qui l'ont martyrisé ont voulu brûler son corps. D'ailleurs dans le fond là, vous voyez un bûcher, absolument. Hein, il y a un buffet, ça. On a voulu le... Mais au moment où on a voulu brûler son corps, un orage terrible s'est déclenché. Tout le monde est parti parce que c'était l'horreur. Hein. En fait, on a même pas eu le temps d'allumer le bûcher. Hein. Et deux personnes qui étaient des compagnons de Saint-Marc et qui ont voulu protéger sa dépouille sont venus prendre le corps de Saint-Marc pour l'enlever, l'amener à Venise. Voilà. Hein. Et donc, ce que vous voyez là, c'est les deux personnes en question. Alors, ils sont un peu plus nombreux parce que, voilà, avec leur chameau pour charger Saint-Marc et partir.
Vous avez des chameaux à Venise ?
Oh oui, à Venise, il y a de tout. C'est la porte de l'Orient. Hein.
D'accord.
Et alors, vous voyez qu'il y a une chose qui vous montre que, alors vraiment, il y a du tonnerre, il pleut, etc. Il y a un détail que je trouve très marrant. Est-ce qu'on le voit ? Oui, on le voit, je trouve. Où on voit vraiment que les éléments se déchaînent. Hein. Qu'il pleut, quoi. Hein.
Oui, on voit la pluie.
On voit la pluie, mais on la voit où, notamment ? Je trouve ça très marrant.
En bas, sur les dalles.
Absolument. Vous voyez tout ça ? Là, ils ont les pieds dans l'eau, quoi. Mmh. Vous voyez, il y a des cercles d'eau, vous voyez ? Il y a de l'eau partout, vraiment. Il pleut. Ouais. C'est la coalta, hein, qui commence.
Le carrelage, enfin, la partie,
oui.
Est vraiment nous envoie au fond.
Oui.
C'est dominant, ce,
absolument.
Ce carrelage.
Alors, justement, qu'est-ce que vous diriez sur... Alors, d'abord, l'auteur, toujours pas d'idée ? C'est un, vraiment un des six grands peintres de Venise au XVIe siècle. On a vu qui déjà ? On a vu le Titien, on a vu Veronèse, et le premier, tout à fait au départ, Giorgio. Qu'est-ce que nous reste ?
Mais il reste Tintoret.
Tintoret. C'est lui. Tintoret. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire, là, qui caractériserait le travail de Tintoret à travers cette œuvre ? Très caractéristique. Hein.
Mais ce bâtiment à droite est bizarre.
Oui, c'est vrai. Sombre. On se trouve un peu relou.
Oui.
C'était pas fini.
Ouais. Alors, justement, c'est intéressant. Est-ce que chez Tintoret, il y a ça, ce qu'on appelle du fa presto. Hein. Tintoret, c'est pas je mets trois heures à faire un truc. Tintoret, on y va. Quoi, hein. C'est on emboutit la toile. C'est de la peinture. D'abord, c'est généralement des très grands formats. Hein. On n'est pas dans les petites miniatures de Giorgione. Hein. On est dans du grand format. C'est grand. Alors, on y va. Hein. Tintoret, y a, c'est de l'action painting. Hein. C'est on maçonne. Mm-hmm. Voilà. Donc le côté pas trop nuages, fini, c'est pas ça c'est très Tintoret. Hein.
Les nuages, c'est pas très achevé.
Oui, oui, les nuages, c'est pareil. Hein. On sent qu'il y a un côté comme ça, fa presto, on va vite.
Mm-hmm. Voilà. Je sais pas ce que c'est que l'écorché à gauche.
L'écorché à gauche.
Je vois un muscle.
Où est-ce qu'il y a un écorché à gauche ?
Ah non, c'est un rideau.
Ça, c'est un rideau. Quelqu'un qui est tombé, qui emporte un rideau, c'est le bazar, si vous voulez. Ça tout s'écroule, ça tombe, ça. Et là, quelqu'un qui tombe, emporte un rideau, vous voyez, c'est... Voilà, ça se passe mal, quoi. Hein. Pardon ?
C'est un enchevêtrement de corps.
Absolument. Et alors, pour continuer à symboliser le style, la manière de Tintoret, qu'est-ce que vous diriez encore ?
Le ciel, les couleurs.
Les couleurs, qu'est-ce que vous en diriez ?
Des oppositions.
Oui, mais à la Véronèse, c'est pareil que Véronèse. Parce que Véronèse, il y a des autres, il y a du rouge, du bleu, du vert, du jaune, du l'or. Il y en a moins. Il y a une palette très restreinte, mais très contrastée. Donc on n'est pas du tout, comme chez Véronèse, une espèce d'explosion chromatique. On est dans une palette très très restreinte et dans un fer qui est rapide, qui est preste. Très bien.
Ça fait un peu fouillé quand même sur le côté.
Oui. Alors, il y a effectivement un côté.
Là, c'est très blanc, il n'y a rien. Et puis l'autre, c'est un peu.
Ouais. Plus... Ah oui. Alors, il y a effectivement chez Tintoret, quelquefois, une volonté de. Comment dire ? De choquer avec le mouvement et l'organisation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout à droite, rien à gauche. Enfin, je vais vite, mais voilà. Hein. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui ne va pas vous trouver le bon triangle au début, qui va faire qu'il y a une vierge et que tout va bien. Là, il y a une espèce de choses qui partent en tous sens, et il y a en effet une volonté de ne pas organiser de manière, comment dire, harmonieuse hein, la structuration de la peinture. Ouais. Donc tout ça fait effectivement partie du style de Tintoret, la rapidité, un chromatisme resserré, mais qui n'empêche pas qu'il soit très contrasté, un mouvement, ça bouge, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et une sorte de désharmonie quelque part. Donc on est, vous voyez, c'est vraiment très différent de ce qu'on a vu. Et puis il y a un côté spectaculaire, théâtral, hein, tout ça est dramatique au sens théâtral du terme. Hein. Il y a du théâtre.
Saint-Jérôme. Parce
que je vois l'heure qui avance, il faut quand même...
Voilà. C'est Saint-Jérôme.
Alors, on peut commencer par le thème. Effectivement, vous voyez donc Saint-Jérôme. En tout cas, Saint-Jérôme ou pas, c'est quoi ? C'est qui ?
C'est un savant.
Un savant qui est dans un intérieur et qui fait quoi ?
Il écrit,
qui lit, qui travaille.
Dans un laboratoire ?
Non,
c'est religieux. Ou plutôt ce qu'on appelle un studio, un bureau, quoi.
Ouais.
Hein. Il n'est pas tout seul. Sans toujours travailler avec un chien. On est bien d'accord.
C'est quoi,
c'est un chien. C'est un petit chien.
Il a la posture d'un chat.
Oh, mais il a la forme d'un chien. C'est un chien. Hein. Très important dans un chien.
Bon, c'est peut-être pas, c'est pas forcément. Enfin. C'est un ecclésiastique quand même.
Oui, moi je pense plutôt
oui.
Quelqu'un de religieux.
Oui, c'est un religieux.
Oui, oui.
C'est un religieux.
Ouais. Saint Jérôme était une bonne idée, mais c'est pas Saint
Jérôme. Il n'y a pas son cardinal. Et puis il n'y a pas le chapeau de cardinal.
Voilà. Donc c'est un autre, mais ça pourrait être lui. Est-ce que vous avez une idée de l'auteur? Oui, c'est Vittore Carpaccio. Absolument. Vittore Carpaccio fait partie de ces 6-8 noms de la peinture vénitienne au 15-16e siècle qu'il faut retenir. Hein. Et si vous aviez, à travers ce tableau, à identifier le style, la manière de Carpaccio, vous diriez quoi? Là aussi, quelques mots pour dire, ben voilà, Carpaccio, c'est ça. C'est quoi?
C'est très construit.
Très construit.
Très rouge.
Très, alors, les couleurs, je suis désolé, c'est pas très, par rapport à l'original, c'est pas très très bon. Hein.
Ah, c'est très organisé.
Très organisé, très construit.
C'est architecturé.
Très architecturé.
Oh, mais c'est quand même un évêque.
Pardon?
C'est quand même un évêque.
Oui.
Il y a la crosse au fond.
Oui.
Saint-Augustin.
Eh oui, c'est Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin. Ange Saint-Géron, vous n'étiez pas loin. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, très structuré, très organisé. Moi, il y a une chose qui me frappe dans ce travail. Pardon?
Il y a beaucoup de détails.
Oui, ah, beaucoup de détails. C'est extrêmement détaillé. Hein. Je crois que vous pourriez lire le nombre de bouquins qui sont là, qui s'étalent. Vous pourriez voir ce qu'il y a là, dans le studio-là. Il y a énormément de détails. Hein. En ce sens, ça vous rappelle des choses? Pardon?
Il y a son siège?
Oui, oui, absolument.
Et il y a sa crosse.
Et la crosse.
Et la mitre.
La mitre?
À gauche.
Oui, oui.
À gauche.
Il y a la mitre là, qui est posée là. Ouais. Il y a la mitre et la mitre et la crosse.
D'accord.
Mais oui, ce goût du détail, cette volonté de vraiment en mettre beaucoup, il y en a partout, il y a des bouquins, il y a... C'est, je ne sais pas, ça vous rappelle quoi?
La peinture du Nord?
Oui. Oui, oui. Pensez par exemple à Van Eyck, hein, oui, oui. Un siècle avant. Hein, Van der Weyden aussi. Enfin, les artistes du Nord qui vont comme ça, vraiment pointer des quantités d'objets très très précis. Carpaccio, c'est ça. Et en ce sens, c'est vraiment un artiste qui est encore dans la tradition médiévale. Hein. On est pourtant là, à l'orée, à la fin du 15e, au début du 16e siècle. Et avec Vittore Carpaccio, on a vraiment un artiste qui... fait passer Venise du Moyen-Âge à la Renaissance, si vous voulez. On est entre les deux. Ça, ce côté précis, très méticuleux, très construit, très architectural, très détaillé, c'est une chose que l'on voit chez les artistes du Nord, mais le Nord connaissait le Sud, et le Sud connaissait le Nord, hein, depuis le début du XVe siècle, grosso modo. Hein, et on en a là vraiment un exemple. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir aller beaucoup plus loin, on a encore 10 minutes, on va pas aller. Hein. Et ça... Non, alors, première chose, sujet. On va commencer par le sujet. Qu'est-ce que vous voyez? Une vierge et l'enfant en haut.
Un guerrier
à gauche. Un ecclésiastique à droite. Alors, la vierge à l'enfant, pas de problème. Hein. Mais le guerrier et l'ecclésiastique, à votre avis, c'est quel type de personnage? Alors, symbolique, religieux, oui, on a un moine, mais c'est un moine, c'est le moine qui passe là dans la rue, là.
Non, c'est un saint.
Est-ce qu'on sait lequel?
Qu'est-ce qu'il a?
Il a pas
un saint François.
Pourquoi?
Il est nu-pied.
Parce qu'il est
nu-pied. Il a les stigmates.
On les voit, ah, on voit pas.
Il y a un trou là.
Ah.
Il y en a un là. Il y en a un là.
Ah non, on le voyait pas.
Il doit bien y en avoir un là. C'est Saint François. Donc c'est pas un moine, c'est Saint François. C'est donc c'est pas un moine lambda, c'est un moine, un saint moine, si vous voulez, c'est Saint François. Et alors ce guerrier à gauche?
Il porte une bannière là, avec la croix.
Ouais.
Rouge.
Blanche. Donc à votre avis, c'est un soldat lambda,
celui qui passe dans la rue? Il y a Saint Georges peut-être.
Voilà. C'est, en tout cas, c'est un saint guerrier, on va dire.
Oui.
Hein. Alors, il y a des discussions sur le saint en question, je vais vous le dire. Hein. Il y a deux possibilités. L'une d'elles est plus privilégiée que l'autre. Ça veut dire qu'on a une vierge et deux saints. Alors, un saint guerrier, un saint soldat, et un saint moine, qui est saint François. Okay. Qu'est-ce que vous inspire cette organisation?
Et alors, le paysage au fond.
Et un paysage au fond.
Très curieux. Il y a des bannières, donc est-ce que c'est tapis là, avec un tapis devant avec...
Alors effectivement, avec, la Vierge est assise, il y a un tapis devant, pourquoi?
Elle est en hauteur par rapport aux autres.
Elle est en hauteur par rapport aux autres, pourquoi?
Ou une glorification.
Mais c'est peut-être un tableau.
Ah ben c'est un tableau.
Oui, non, mais je veux dire, il y a un tableau de la Vierge dans un espace.
Ah, tiens, la Vierge. Non, c'est la vraie Vierge, j'ose dire. Enfin, voilà. C'est compliqué parfois de parler l'histoire de.
Mais c'est un peu insolite, c'est un peu.
Oui, oui. Donc, c'est intéressant parce que votre. Votre hésitation montre bien, évidemment, c'est une construction complètement abstraite. C'est-à-dire qu'en gros, on a monté une Vierge sur des estrades empilées, on a flanqué dessus des espèces de tapis pour quand même que la Vierge qu'on a mis au-dessus, parce que la Vierge, c'est la Vierge, elle est au-dessus de nous. Donc on ne va pas la mettre beaucoup de temps par terre comme Bellini tout à l'heure. Hein. On la met sur une estrade parce que c'est quand même mieux. Hein. La Vierge, c'est la Vierge, elle nous domine. Hein, et elle domine même les saints. Hein. Alors nous, on sait bien. Voilà. Donc on a fait cette espèce d'empilement d'estrade, on met la Vierge au-dessus, on met des tapis pour un peu faire mieux, améliorer l'ordinaire, et puis il y a les deux saints, parce que quand on fait la photo, hein, il faut quand même que les saints regardent et sourient un peu, quoi. Il y a un peu ce côté-là, vous voyez, une construction très abstraite, mais qui a pour but, effectivement, de nous proposer une sorte de Vierge en majesté, accompagné d'un certain nombre de saints personnages. Alors, tout ça se fait devant un paysage. Hein. Ce paysage, bah, il existait, on l'a laissé, ils n'ont pas mis
un droite, tapis derrière. Hein. Le petit paysage de droite,
oui.
Il est superbe.
Oui, oui. Ah oui, c'est très,
c'est
très,
joli,
beau.
Hein.
Ouais. Ah, c'est très beau. Hein. À votre avis, ce genre de tableau était fait pour quoi, d'ailleurs?
Dans une église, un tableau d'hôtel.
C'est un tableau d'hôtel, c'est un retable. Hein. C'est un retable, donc c'est grand, hein. C'est très grand. C'est toujours d'ailleurs dans l'église pour laquelle ça a été fait. Une idée de l'auteur que vous connaissez.
Bellini?
Non.
Alors, c'est pas Bellini.
C'est un truc qu'on a déjà vu.
Dans ce qu'on a déjà vu, à votre avis, de qui ça se rapproche le plus? Tintoret?
Non.
Pas Tintoret.
Titien?
Non, pas Titien. Véronèse. Ah,
Véronèse.
Non. Pas Véronèse.
Non.
Ah, Vittorio Carpaccio. Non, pas Vittorio Carpaccio. Eh bien, c'est Giorgio. C'est Giorgio. Ce que vous avez là, c'est un retable de Giorgio. Voilà. D'ailleurs, vous trouvez... une sorte d'organisation comme ça, avec les gens, enfin je trouve, hein, posés comme ça, un peu. Rappelez-vous la tempête de tout à l'heure, avec cette organisation assez abstraite. Hein. Je trouve que quelque part on trouve l'écho. Et puis surtout, je sais pas, le visage de lui, par exemple, je trouve, rappelle beaucoup le visage de la femme de la tempête, enfin, une espèce de caractère posé. Tiens, voilà un chat, un vrai pour le coup. Il n'y a pas que Saint-Augustin. Hein. Voilà. Et donc. Voilà, c'est une œuvre de Giorgio. Alors, je voudrais, voilà, sachant qu'on a vu là cette première série d'œuvres, je vous les remontre les uns derrière les autres. Ah oui, j'ai oublié de vous demander dans quel sens vous les mettriez.
Le Carpaccio.
Donc, vous savez, voilà, le Carpaccio, c'est le premier, hein, on est d'accord.
Giorgio.
Donc, le Carpaccio, le voilà. Donc, la vision de Saint-Augustin.
Hein.
Vous voyez, une œuvre tout à fait du début du XVIe siècle. Hein. Vous mettriez lequel après?
Giorgione.
Très bien. D'accord. Ce serait Saint-Nicaise. Il y a d'autres possibilités, mais actuellement, plutôt Saint-Nicaise qui est privilégié. Ensuite, vous mettriez qui? Il nous reste.
Il reste Titien, Tintoret et Véronèse.
Et puis un autre encore. Et
Bellini.
Alors,
Bellini
maintenant.
Bellini maintenant.
Eh bien, Bellini.
Ah. Oui.
Bellini.
Et après
Titien, Véronèse, Tintoret.
Mais Titien et Tintoret sont à peu près contemporains.
Ouais. Alors, lequel est le plus âgé?
Titien, je crois.
On va voir.
Bien.
Bravo.
Bravo.
Enfin, bravé plutôt. Bravi, même. Voilà. Ensuite,
Tintoret.
Vous avez dit de toute façon qu'ils étaient. Hein.
Et
puis enfin,
Véronèse.
Véronèse.
Ah ben oui, j'avais pensé.
Bien. Alors, il nous reste 3 minutes. C'est un peu court. Mais quand même, je voudrais qu'on voit très 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 vite, parce qu'après, il faut que je fonce à l'autre bout du département pour une autre conférence. Mais on va quand même, en 5 minutes, essayer de voir très vite, maintenant que vous possédez vos Véronèse, Tintoret, Titien et autres Giorgione, j'ai montré quelques œuvres là, et on va canarder, n'est-ce pas ? On va très vite essayer de trouver de quoi il s'agit, de qui il s'agit.
L'enlèvement d'Europe.
C'est l'enlèvement d'Europe, ça c'est pour le sujet. Et maintenant, est-ce que vous avez une idée de l'auteur ? Dans les deux, il s'agit des six mêmes. Hein. Donc, vous n'avez pas à hésiter beaucoup.
C'est Titien. Hein.
Titien.
Bravo.
Titien.
L'enlèvement d'Europe.
Ensuite. Sujet.
L'ivresse de Noé.
Oui, l'ivresse de Noé. Hein. Noé au premier plan, les trois fils, Sem, Cam, Japhet, qui recouvrent ou se moquent de la réalité de leur père. Ça pourrait être Carpaccio, mais ça n'est pas Carpaccio. Alors, si ce n'est pas Carpaccio, il y a deux autres possibilités, dont une qui s'impose. Véronèse ?
Non.
Non. Tintoret ? Non. Titien, on vient de le voir. Non. Pas Carpaccio. Giorgione ?
Non.
Ben voilà une scène évidente. C'est l'ivresse de Noé, point à la ligne. Il n'y a pas... hein ? On n'est pas du tout dans l'ambiguïté giorgionesque, là. On est dans une scène évidente. Et dans un tableau qui est un chef-d'œuvre d'un musée qui se trouve à côté d'ici. Oui. Et qui ouvre demain. Et voilà. Hein. L'ivresse de Noé, chef-d'œuvre illustrissime du musée de Besançon, que vous allez tous voir, non pas demain, mais après-demain. Voilà. Et vous retrouvez là, justement, ce côté, regardez le côté dufteux, assez soft, etc. Hein. Très construit aussi. Rappelez-vous la Vierge triangulaire de tout à l'heure. Hein. Et le côté, espèce de réalisme. Regardez le personnage chaud. Alors, c'est Raymond Barre plus âgé tout à l'heure, en bas à gauche. Hein. Vous voyez, c'est espèce de réalisme doux. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On est, il n'y a vraiment que Bellini pour faire ça. Hein. Ce côté un peu dufteux, même, du rendu en général. Besançon. Musée des Beaux-Arts que j'ai, Besançon. C'est un des grands chefs-d'œuvre. Hein. Il y en a d'autres. Le musée de Besançon. Évident.
Le premier Véronèse.
Véronèse. Ça, c'est Véronèse. Hein. Gardez cette femme avec des bijoux. Elle est même un collier. Elle est nue, mais elle a un collier autour du cou. Il faut le trouver, ça, quand même. Hein. Je veux dire, il y a la bijouterie partout. Il y a ses couleurs. Regardez le bleu du ciel.
Voilà.
C'est Vénus. Ah oui, c'est quoi le sujet ?
C'est Vénus.
C'est Vénus et.
Ses
amants. Et Adonis. Oui, elle en a eu pas mal. C'est toujours dur de choisir. Hein. Ok ?
Oui.
Tintoret. Saint-Marc, toujours lui, que vous voyez descendre là, qui sauve un esclave. Alors là, on recommence. Hein. Je vous mélange un peu tout ça. Hein. Alors, ça pourrait être Titien, mais il se trouve que Titien a été l'élève d'un autre de ces artistes. Un peu plus vieux.
C'est moins du veteux.
C'est moins
précis.
Oui, et puis c'est plus, plus ambigu, moi, je pense.
Giorgione.
Regardez, vous avez une Vénus qui pose devant des espèces de fermes nordiques. Vous trouvez ça clair, vous ? Moi, je trouve pas. Tout à l'heure, on vit une Vénus dans un appartement avec deux servantes dans le fond. C'est clair. Là, franchement, c'est bizarre. Hein, une Vénus qui dort dans une sorte de campagne nue. On dirait la femme nue tout à l'heure avec son gosse, mais elle laisse le gosse et elle s'est allongée. C'est très très curieux. On est dans l'ambiguïté de Giorgione. C'est la fameuse Vénus endormie de Dresde. Oui, Carpaccio. Rappelez-vous du Saint-Augustin tout à l'heure. Carpaccio est quelqu'un qui aligne les détails. Alors tout à l'heure, c'était l'intérieur d'un studiolo. Là, c'est une place orientale. Vous savez, à Venise, on a déjà vu des chameaux tout à l'heure. Hein. Ben, y a beaucoup d'orientaux à Venise. D'ailleurs, chez Giorgione, rappelez-vous les philosophes, il y avait un oriental. Eh bien, cet orient, Carpaccio l'utilise beaucoup, vous le voyez là. La prédication de Saint-Étienne de Jérusalem, un chef-d'œuvre de Carpaccio du Louvre. Bon. J'aimerais bien vous montrer autre chose, mais je crois qu'on n'a pas trop le temps, parce que ça va être un peu trop. Ouais. Donc c'est pas très grave, hein, on verra ça la semaine prochaine. Par contre, on ne pourra peut-être pas mettre le truc sur le site.
Ah, bon.
Hein, si on peut, parce que autant qu'on finisse la semaine prochaine et que vous ne l'ayez pas, là. Ouais. Mais vous ne regarderez pas, vous qui avez là. Vous nous promettez, hein. Sans doute la semaine prochaine. Bien. Donc la semaine prochaine, on fera, pour commencer, une petite révision de ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais c'est ça la pédagogie, il faut réviser toujours. Hein. Ouais. Donc je vous dis, à dans une semaine.
D'accord.
Alors, une semaine. Et bonne soirée.